Exode, chapitre 33, passage que j'aime énormément, toujours dans cette réflexion de se cacher en Jésus, d'être en Jésus. Exode, chapitre 33, 15 jours, nous avons vu une introduction, manière à bien expliquer que nous avons tout pleinement Jésus-Christ, hein, véritablement. Nous avons tout ce qu'il faut pour notre vie aujourd'hui, tout ce qu'il faut pour demain, et en Jésus, il nous fait partager sa gloire déjà aujourd'hui. C'est une réalité. Et tout le challenge, c'est de rester dans l'œuvre de la croix. Et la semaine dernière, nous avons vu quelques éléments qui étaient susceptibles de nous faire sortir de cette position-là. Et souvenons-nous bien que c'est vraiment le combat de notre foi, d'arriver et de rester véritablement dans cette position de nous dire « Je suis en Jésus ». En toi, Seigneur, je ne crains rien. En toi, eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut, spirituellement et matériellement. En toi, j'ai toute l'affection, en toi, j'ai tout l'amour. En toi, Seigneur, je ne manquerai de rien, j'ai tout pleinement en toi. Et la plus grande chose que nous avons, c'est que nous sommes réconciliés avec notre Père qui est là-haut dans les cieux et que notre Père pourvoit à tous nos besoins sur cette terre. C'est quelque chose qui est glorieux. Vous savez, le diable peut rugir, nous ne craignons rien. Il peut nous faire douter. Nous ne craignons rien, alors n'ayons pas peur des Goliaths qui sont devant nous, des Goliaths qui sont dans notre tête, vous savez, des géants qui sont dans notre tête et qui voudraient nous faire croire que nous ne pouvons plus avancer. En Jésus, nous sommes vainqueurs. En Jésus, nous sommes vainqueurs, c'est une réalité. Exode chapitre 33, verset 12, à partir du verset 12. Exode chapitre 33, à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je te ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Les événements qui précèdent ce texte sont relativement tragiques. Pendant que Dieu donnait à Moïse les tables de la loi et la révélation du tabernacle, ainsi que d'autres instructions relative au culte, le peuple s'est corrompu au point de commettre le sacrilège du veau d'or. Après avoir brisé les tables et pris d'autres mesures, nous voyons cela en Exode 32, Moïse va intercéder pour Israël et il reçoit l'ordre de continuer sa marche avec lui. Mais Moïse est arrivé à ce point qu'il a vraiment pris la mesure de la difficulté. Il a vraiment pesé quelle était sa responsabilité et quels seraient les combats qu'il y aurait. Et Moïse va commencer à discuter avec Dieu. Et j'aime cette notion. On sait que Moïse était l'ami de Dieu et que Dieu lui parlait face à face et littéralement bouche à bouche. On savait que Moïse était un homme de la présence de Dieu, un homme qui pouvait rester dans la présence de Dieu. Et quand on regarde un petit peu l'argumentation de Moïse par rapport à ses peurs, cela est extrêmement intéressant. Il sait que Dieu le connaît par son nom. Il désire aller plus loin et connaître les voies divines. Il veut connaître Dieu encore davantage. Il réalise qu'il faut que Dieu lui-même marche devant lui. Il demande une même manifestation lui permettant d'avoir cette certitude. Mais mes frères, mes sœurs, lorsque l'on transpose à nos propres vies, il en va exactement de même. La réponse de Dieu et l'argumentation de Moïse, nous pouvons nous l'appliquer. Dieu nous connaît par notre nom. Dieu nous connaît d'une manière individuelle et il accorde sa grâce à ceux qui croient en son Fils Jésus. Dieu nous connaissait déjà dans le ventre de notre mère, alors que nous n'étions qu'un fœtus. Dieu avait déjà marqué sur son livre tous les jours de notre vie. Le livre du prophète Jérémie nous explique que Dieu nous aime d'un amour éternel. Et ça, c'est une réalité. De la même manière, la connaissance des voies de Dieu et de sa personne, de sa volonté est indispensable à quiconque veut lui être agréable et le servir. Ça doit être également notre responsabilité. Seigneur, je veux marcher avec toi, j'ai besoin de connaître ta volonté. Tu vois ce chemin qui s'ouvre, j'ai besoin de connaître ta grâce. Et je pense que, mes frères et sœurs, tout comme Moïse, alors que le chemin est peut-être difficile, alors que le chemin est peut-être compliqué, on peut demander au Seigneur, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Alors vous me direz, mais quelle outrecuidance, Olivier ! Culotté quand même. Comment peux-tu demander une chose pareille ? Moïse, n'a vu la gloire de Dieu, n'a vu Dieu que de dos. Oui, mais Moïse était sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et il s'est passé un événement majeur, c'est qu'à la croix, pendant que Jésus était crucifié, le voile s'est déchiré. Et aujourd'hui, nous avons un accès auprès du trône de la grâce. Et non seulement nous pouvons parler à Dieu comme nous le souhaitons, avec crainte bien sûr, et avec respect dans le nom de Jésus, dans l'œuvre de Jésus, mais en plus, nous avons comme ami celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Nous pouvons avoir ce cœur à cœur, tout comme Moïse pouvait en avoir. Peut-être es-tu venu ce matin en disant « Seigneur, Seigneur, je veux voir ta gloire. » Je veux un signe particulier de toi. Je veux vraiment que tu me révèles quelque chose. Je veux vraiment qu'il y ait un attouchement sur ma vie. Je veux comprendre quelque chose de plus. Peut-être es-tu venu dans ce lieu en te disant, Seigneur, j'ai besoin vraiment que tu me scelles. Tu vois, je suis fatigué, je suis épuisé. J'ai vraiment un temps de découragement profond. Et c'est normal que dans nos vies chrétiennes, que dans notre marche avec Dieu, nous puissions vivre comme Moïse, des temps où la marche nous paraît trop compliquée, nous paraît trop difficile. C'est normal que parfois, nos simples forces ne suffisent plus. C'est normal parfois d'avoir envie de déposer les armes et puis de retourner à la pêche. Mais dans ces cas-là, faisons comme Moïse. Ayons un cœur à cœur avec Dieu et demandons-lui, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et après ce passage, on passe à Exode 34. Après Exode 33, vous allez me dire, c'est un petit peu normal. Que se passe-t-il ? Dieu demande à Moïse de regraver les tables. Et la loi est à nouveau donnée au peuple. Quelle belle image ! Mes frères, mes sœurs, je crois que c'est dans la volonté de Dieu de nous révéler sa gloire. Il ne veut pas nous la cacher. Et je dirais même qu'il ne nous l'a pas cachée. Elle est évidente. L'apôtre Paul écrira aux Romains que toute la création est un signe pour les païens qui n'avaient pas la révélation divine du fait qu'il y avait une existence supérieure et que toute la création est un signe de l'existence de Dieu. L'évangile de Jean s'introduit de la manière suivante en disant que la présence divine est venue tabernacler. La parole, la lumière est venue tabernacler, est venue habiter dans le monde. Mais le monde ne l'a pas reçu. Par contre, pour ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu veut se révéler. Et au travers de ce passage, nous voyons trois choses. Trois points qui nous permettent, finalement, de mieux comprendre comment la gloire de Dieu veut se révéler. Elle ne veut pas se révéler de n'importe quelle manière. On ne peut pas créer la gloire de Dieu. On ne peut pas imposer à Dieu une manière de se révéler. Bien souvent, dans les milieux évangéliques, on souhaiterait créer la présence de Dieu au travers eh bien, d'une forme qui ressemble, et je le déplore de plus en plus, eh bien, à ce que le monde fait. Mais Dieu veut nous révéler sa gloire. Et la première chose que l'on voit, eh bien, c'est que pour goûter à la gloire de Dieu, il est nécessaire de se placer au bon endroit. Dieu va dire à Moïse, tu te placeras sur le rocher. Et lorsque je passerai, eh bien, je te cacherai au creux du rocher. Et dans la symbolique biblique, le rocher, ça n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Jésus a été le rocher des siècles qui a été frappé et duquel a jailli une eau qui est capable de rassasier les nations. Jésus et ce rocher était la forteresse, le surappui de David et demeure encore notre rocher. Jésus, eh bien, c'est ce type même, eh bien, de la protection de ce qui ne bouge pas, de ce qui ne change pas. Un rocher ne change pas. Et je dirais même que Jésus n'est jamais érodé. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jamais Jésus ne sera érodé. Jamais. Et lorsque Moïse, eh bien, lorsque Dieu demande à Moïse de se placer là, cela est un acte symbolique de l'action que nous devons vivre, de la démarche que nous devons faire. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous ne la trouverons pas en nous-mêmes. Nous ne la trouverons pas dans nos propres actes. Nous ne la trouverons pas dans notre propre satisfaction. Nous ne la trouverons pas dans la satisfaction de la chair, mais nous la trouverons, eh bien, dans la relation que nous aurons avec Dieu. Nous ne pourrons pas trouver la gloire de Dieu dans des sentiments humains. Nous ne pourrons pas trouver la gloire de Dieu dans de la spiritualité. Pour Dieu, la spiritualité. C'est très à la mode. Mais en revanche, eh bien, je peux tout simplement trouver la gloire de Dieu dans la personne de Jésus, dans l'œuvre de Jésus. Parce que la gloire de Dieu, et je l'ai déjà dit, je radote avec l'âge, s'est manifestée en Jésus-Christ. À un moment donné, dans les évangiles, on trouve deux passages que je relisais ce matin, je suis tombé un petit peu par hasard dessus. Premier, les contemporains demandent à Jésus de faire un miracle. Et Jésus de dire, détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. Le temple étant le symbole de la présence de Dieu, le lieu où la Shekinah s'est manifestée à Salomon. Second passage qui m'est venu à l'esprit, alors que les pharisiens diront à Jésus, fais-nous un miracle, et nous croirons en toi. Et là, Jésus va leur répondre, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, qui est resté 3 jours dans le ventre d'un gros poisson, burk, et qui finalement en a été vomi sur une plage. Jésus mort, mis au tombeau, et qui ressuscite 3 jours après. Les hommes demandent des signes aujourd'hui à Dieu pour croire. Fais voir des aveugles, et nous croirons. Guéris des cancéreux, et nous croirons. Change les choses, change ce monde, et nous croirons. Mais la réponse de Jésus est la même. Le seul moyen, ce qui touche réellement un cœur. Mon frère, ma sœur, la gloire de Dieu s'est déjà manifestée dans la personne de Jésus, dans la personne que Dieu a déjà donné son Fils unique. C'est le signe, le signe véritable de l'amour de Dieu pour les hommes. Jésus a guéri 10 lépreux un jour. Je me dis que les 10 auraient dû revenir. Pour autant, il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Pourtant, la gloire de Dieu s'était manifestée au travers de ce signe extraordinaire que Jésus avait fait. On ne se convertit pas. On ne naît pas de nouveau parce que l'on est guéri. On ne naît pas de nouveau parce que l'on voit des choses extraordinaires. Mais on naît de nouveau parce qu'on prend connaissance de la croix et parce que l'on se cache en Jésus. On voit la gloire de Dieu réelle. Et on a le potentiel de participer à cette gloire. Non pas parce qu'on voit une manifestation de la gloire de Dieu, mais parce que l'on vit l'action du Saint-Esprit, cette conviction de péché, de justice et de jugement, et que l'on croit dans le sacrifice de Jésus. Comprenez la différence ? Le fondement de notre vie chrétienne, c'est ça, c'est cette œuvre, c'est ce rocher dans lequel nous sommes cachés, dans lequel nous demeurons, dans lequel nous sommes bien. Et à partir du moment où notre foi repose sur cette réalité, alors, eh bien, nous ne craignons strictement rien. Mais si notre foi repose uniquement sur des manifestations, alors là, nous sommes en danger. Parce que Jésus n'est pas un guérisseur. Et vous me passerez l'expression, mais c'est la seule qui me vient à l'esprit. Jésus n'est pas un amuseur de galerie. Quelqu'un qui fait du spectacle en guérissant. Mais lorsque Jésus guérissait, c'était pour montrer la direction qui menait au Père. La vérité, c'est que notre foi, elle doit être ancrée dans ce rocher. Et mon ami, si tu veux vraiment rencontrer Jésus, si tu veux vivre quelque chose de glorieux avec Jésus, connaître les sentiments divins, connaître la paix qui est en Jésus, connaître la tranquillité qui est en Jésus, connaître les conséquences du fruit de l'Esprit, connaître cette joie, cette bonté, connaître un changement de caractère, connaître un changement de vie, il est nécessaire que tu sois au creux du rocher. C'est à la croix du calvaire que les choses se passent. C'est dans sa personne, c'est dans son œuvre que les choses se passent. C'est pas ailleurs. Et une fois que l'on est dans son œuvre, alors on vit une gloire toute particulière et toute nouvelle. Jésus nous a aimés. Dieu a prouvé son amour en offrant son Fils unique. Comme je le dis souvent, quand je fais la vaisselle, si je le fais parce que ma femme me demande de le faire, c'est très souvent mal fait. J'ai cet esprit de contradiction-là. Mais si je le fais pour lui faire plaisir, parce qu'elle est fatiguée, qu'elle est rentrée du travail tard, à 17h, je plaisante. Ouais, elle est fonctionnaire, mais bon, en plus c'est faux. Elle ne travaille pas à la Banque de France. Mais je plaisante, de grâce. Mais si je le fais par amour, alors c'est bien fait. Alors c'est bien fait. Et ma vie chrétienne, si je la mène, parce que je sais que j'ai été aimé, alors ce sera bien fait. Alors ce sera bien fait. Caché au creux du rocher, c'est là que nous devons être. Mon frère, ma sœur, as-tu reconnu Dieu qui passait et voulait te révéler sa gloire? Le peuple d'Israël a accueilli Jésus, a accueilli la parole, a accueilli cette lumière qui donnait et qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais le peuple, les contemporains de Jésus, ne l'ont pas accepté. Pour quelle raison? Parce qu'ils attendaient un lion et non pas un agneau. Ils attendaient un homme qui les délivrerait de l'envahisseur romain. Ils attendaient non pas Ésaïe 53, mais ils attendaient le guerrier de l'Apocalypse qui viendrait sur son cheval blanc. Alors que Jésus apparut comme un simple homme. Alors que Jésus apparut sans rien qui frappe le regard. Et ainsi, la lumière est passée parmi eux, sans jamais les éclairer. La musique a joué, ils ont dansé une heure. Ça, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Mais sans que rien ne se passe. Parfois, on peut penser que la gloire de Dieu est conditionnée à des schémas que l'on peut avoir. Qui aurait reconnu un roi en train de naître dans une étable ? Qui aurait reconnu le Fils de Dieu en train de mourir sur une croix? Et dans nos vies, il en va de même. La gloire de Dieu n'a pas forcément toujours la forme que l'on attend.
On attend tellement souvent. Allez, on est entre nous. L'agneau de Dieu. Le lion de Juda, pardon. Zut, j'ai tué la faim. On attend tellement le lion. Ce héros puissant. Et heureusement qu'il existe, que Jésus l'est également. Mais en priorité, il se révèle bien souvent comme l'agneau. De manière à ce que nous-mêmes nous soyons à genoux. On connaît, et pour quelle raison se présente-t-il comme l'agneau et pour que nous-mêmes nous soyons à genoux ? On connaît ce texte des Écritures qui dit « Vous voulez résister au diable ? Vous voulez qu'il fuit loin de vous ? Oui ou non ? Vous voulez être tranquille ? Sûr ? Heureux, hein, qu'il vous fiche la paix ? Vous voulez que votre chair soit jugulée ? Là, vous... Oui ou non ? Vous sentez le piège venir. Lisez ce qu'il y a auparavant. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et la vocation de l'agneau, c'est de nous montrer qu'en premier lieu, si nous voulons résister, eh bien, il est nécessaire de rester au creux du rocher et que cela passe par une certaine obéissance. Accepte la gloire de Dieu qui paraît comme un agneau. Elle te fera vivre demain la puissance du lion. Deuxième image qui m'est venue, et j'imagine la main de Dieu qui se pose et qui courbe Moïse là au creux du rocher. Et ça m'a fait penser à un petit enfant qu'une mère prend dans ses bras. Et les deux ne font plus qu'un. Et la main de Dieu qui passe, imaginez un baptistère là, Moïse qui est caché à l'intérieur et la main de Dieu qui le recouvre. Quelle belle image, non ? Comment ne pas penser à Romains 6 et à l'image du baptême ? Paul dira que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Et la véritable démarche, j'allais dire évangélique, mais dans le sens biblique du terme, non pas dénominationnel, ce n'est pas simplement, j'allais dire, de marcher avec Dieu. Vous allez me détester sur cette partie-là, je vous préviens. Après, la troisième partie est plus sympa, mais elle sera plus courte, je suis désolé. Mais si je veux voir la gloire de Dieu, il est nécessaire que je meure avec lui. Sans mort à moi-même, je ne peux pas ressusciter. Plusieurs textes nous le prouvent, et notamment sous la plume de l'apôtre Paul. Colossiens 3:3, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ok, je suis caché en Dieu. Mais est-ce que je suis... Allez, est-ce que j'apprends à être mort à moi-même ? Je l'ai été symboliquement par les eaux du baptême. Oui, je suis... Hop, hop. Myriam, je ne t'ai pas gardé trop longtemps, ça va ? Non, c'est bon. Mais toutes sortes de choses. Alors, sur cette notion de mourir à soi-même, on y réfléchira un petit peu. On y réfléchira un petit peu plus longuement une autre fois. Je vous donne juste quelques pistes de réflexion, juste pour vous mettre de l'eau à la bouche et l'envie de ne pas revenir. Premièrement, acceptons de faire mourir notre affection aux choses de cette terre, qui bien souvent s'assimilent aux chaînes. L'apôtre Paul écrira aux Philippiens, et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et ce n'était pas rien ce que l'apôtre Paul possédait. Et quel était le but de cette démarche ? Il le dit au verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Moïse va renoncer à la jouissance, c'est le terme utilisé dans l'Épître aux Hébreux, du péché, au plaisir éphémère apporté par le péché, pour un héritage bien plus glorieux. Deuxième notion de mourir à soi-même, c'est un changement de maître. J'ai un grand scoop pour vous. Vous ne pourrez jamais être libre. Je suis désolé. La liberté pour chaque être humain, ça n'existe pas. Mais nous devons systématiquement avoir un maître. Lorsque j'étais sans Jésus, j'avais un maître qui me faisait porter des fruits, et l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, qui me faisait rougir, dont j'avais honte. Mais Paul dira dans l'Épître aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Tiens, on revient à la croix, désolé. Sous-entendu, Paul dira, « Ce n'est plus moi qui conduis ma vie. » Et ce terme de vivre, on pourrait le décliner de différentes manières, mais ce n'est pas le but de notre propos. Mais on peut le résumer de la manière suivante, c'est plus moi qui pilote. Mais je m'astreins à ce que ce soit Jésus qui conduise. Et là, je vois sa gloire. Et Paul dira, ça n'a pas toujours été le cas. À certains temps, c'était finalement les passions et les désirs qui conduisaient la vie. Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et les vieux convertis que vous êtes pourront témoigner aux nouveaux qui sont peut-être parmi nous de dire que quand on est à Jésus, de manière très naturelle, il y a certaines choses qui perdent de leur éclat. C'est étonnant, on ne se force pas. J'étais un accro du sport. Rater une réunion de prière, rater un match de foot, hors de question. Puis au fur et à mesure de ma vie chrétienne, aujourd'hui, c'est vraiment plus un drame. Il y a des choses qui se décollent comme ça au fur et à mesure de notre vie chrétienne. Tout simplement parce qu'on fixe nos regards sur l'amour de Dieu. C'est normal, c'est naturel, et c'est là la véritable sanctification. Nos sentiments changent. Moi qui étais quelqu'un d'extrêmement colérique, je ne dis pas que je suis tout l'homme le plus patient du monde, loin de là, mais il ne fallait pas me connaître à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Mais ça s'est fait de manière tellement naturelle, il y a encore du travail à faire. Mais le Saint-Esprit s'en occupe. Et ma femme aussi. On ne peut pas avoir de maître. C'est pas possible. Et on ne peut pas être libre. Si tu penses pouvoir être libre, tu te trompes. Par contre, choisis bien ton maître. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Mourir à soi-même, c'est un changement de source, ai-je mis. Galates 6, 14, pour ce qui me concerne, loin de la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul aurait pu se glorifier de bien d'autres choses. Apôtre, miracle, waouh, les galons. Pour autant, pas du tout. Ce qui faisait la fierté de Paul, c'était l'œuvre de Jésus et ce que le Maître avait fait. Et ça, qu'il en soit toujours de même. Vous savez, mes frères et sœurs, on reviendra sur ce thème-là, avec l'aspect de la crucifixion. Mais je crois de tout mon cœur que c'est paradoxal, mais pour vivre véritablement la gloire de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, nous devons vivre ce paradoxe d'être capable de crucifier certaines partie de notre volonté. On le sait tous, c'est un sacré combat quand même. Gethsémané, c'est pas neutre et on a tous nos Gethsémané. Ces moments où notre volonté nous dit « Allez, plaque tout, arrête tout, c'est bon, plie les gaules. » Et où pourtant dans notre cœur, il y a cette petite voix qui dit « Continue à t'accrocher. » Et là, on s'accroche à la dernière petite branche qui reste. Heureusement que c'est du bois de la croix de Golgotha, parce qu'elle tient bon. Parfois, on se dit, mais il y a la chair qui revient au grand galop, avec ses caractéristiques, jalousie, haine, envie, etc. Et là, on doit s'accrocher et prier de tout notre cœur, de manière à ce que le Saint-Esprit nous rende vainqueurs de cette épreuve-là. On aura tous nos Gethsémané. Et gloire à Dieu, parce qu'à Gethsémané, c'est un petit bout de notre chair qui est crucifié. Et c'est bien des victoires qui sont remplies. C'est bien des victoires qui sont remportées. Crois seulement crois seulement que dans ce qui te lie. Ton maître a triomphé à ta place. C'est ça, être en Jésus. Crois que ton maître a déjà triomphé pour toi. Que les forces, il les a déjà provisionnées. Un petit peu comme un patron intelligent provisionne les investissements à venir. Jésus a déjà provisionné les forces nécessaires que tu devras investir pour surmonter cette épreuve. C'est dommage, j'ai pas de temps pour le point agréable. Je suis vraiment désolé. En conclusion, Dieu s'est révélé et il se révèle encore aujourd'hui. Tout simplement, oui, parce que, allez, j'ai dressé un tableau un petit peu noir, mais je vais l'éclaircir quelque peu. Bien sûr que la gloire de Dieu se révèle parce que Jésus guérit encore, parce qu'il baptise encore du Saint-Esprit, parce qu'il change encore des cœurs, parce qu'il change encore des vies, parce qu'il est capable de restaurer eh bien, des couples qui sont fichus par terre, parce qu'il est capable de remettre en place. Bien sûr, c'est une réalité, on y croit. Mais la plus belle révélation qui soit, c'est que encore aujourd'hui, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Encore aujourd'hui, le Saint-Esprit élève et réconcilie avec le Père. Dieu se révèle encore et veut encore révéler sa gloire et veut te la faire partager avec encore un petit peu plus d'intensité. C'est une réalité.
Waouh ! Et qu'est-ce que tu leur as fait ce matin ? Tu es endormi ou quoi ?
C'est une réalité. Notre Dieu se révèle encore. Sachons la reconnaître. Et elle prend naissance dans l'amour de Dieu pour nous. Sachons la reconnaître. Jésus veut te rencontrer à nouveau. Jésus veut s'arrêter à nouveau, là. Et peut-être replanter quelques clous sur certaines parties de ta vie qui ont besoin d'être recollées à la croix. Il veut t'arracher quelques larmes parce qu'il veut te faire réaliser l'amour qu'il a pour toi. Il veut te remettre en lui, au creux du rocher. Pourquoi ne pouvons-nous pas toujours reconnaître cette gloire ? Je conclurai vraiment ma conclusion par ça. Les disciples se sont endormis de quoi ? De tristesse. Et la vie a une capacité à nous attrister qui est au-dessus de la moyenne. Les enfants, les difficultés professionnelles. Allumer la télévision, il y a de quoi faire, prendre deux Xanax. Non pas par les bêtises des programmes qui y sont diffusés, mais par la morosité que cela déploie. Tout dans ce monde a vocation, quelque part, à nous attrister. Et quand un cœur est triste, on a l'exemple du prophète Samuel, qui avait laissé la corne d'huile dans un coin et qui était rentré chez lui. Et il faut que Dieu lui dise, « Attends, Samuel, ce n'est pas parce qu'avec Saül ça s'est mal passé que tu dois pour autant ranger la corne. Moi, j'ai quelqu'un, j'ai un petit gars qui est bien. Il s'appelle David. Plutôt, il ne va pas le lui dire, il va lui faire la surprise. Mais il va lui donner le chemin. Il va dire, « Tu vas aller faire un petit sacrifice quelque part, là. » Cesse de pleurer sur Saül. Allez, réveille ton cœur. Enlève la tristesse. Ok, elle est légitime. Ok. Mais passe au-dessus. Au-dessus, il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire que Dieu veut te donner. Il y a la gloire que Dieu veut te montrer. Il y a la puissance du Christ et la puissance de l'œuvre de la croix qui veut se révéler. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse ensemble. Et on reste au creux du rocher. D'accord ? Ça marche ? Te bénissons, Seigneur, pour le rocher, Seigneur, que tu es, pour le rocher de ton œuvre. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, nous avons toutes choses. Nous te bénissons parce que nous savons qu'avec toi, Seigneur mon Dieu, eh bien, nous sommes en sécurité. Alors merci. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu as pourvu à toutes choses.
Seigneur, et ce matin, eh bien, nous voulons nous cacher, nous blottir au creux du rocher. Accepter, Seigneur, de mourir à nous-mêmes, de mourir à notre propre volonté. Accepter, Seigneur mon Dieu, d'aimer, Seigneur, peut-être des personnes qui ne sont pas aimables à notre tour. Accepter, Seigneur mon Dieu, de poser nos regards, Seigneur mon Dieu, vraiment sur d'autres situations. Seigneur, que ta grâce nous entoure. Accepter que notre caractère change. Accepter que nos fiertés d'hier, Seigneur mon Dieu, deviennent des hontes aujourd'hui. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Je te prie, Seigneur, pour que nos cœurs soient toujours des cœurs de chair, incapables d'aimer, Seigneur mon Dieu, capables de ressentir l'amour que tu veux nous donner. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste encore dans nos vies, que la croix soit plus présente. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que dans ma propre vie, Seigneur, la croix soit visible de loin. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen.